François Rivet, bonjour.
Bonjour.
Qui êtes-vous ?
Je suis François Rivet, je suis chercheur sur le campus bordelais et je travaille sur les circuits intégrés, c'est-à-dire les petites puces qu'on retrouve dans nos téléphones portables.
Dans quel laboratoire vous exercez ?
Alors c'est le laboratoire IMS pour intégration du matériau au système.
Alors j'ai vu sur un petit texte que j'ai trouvé sur internet que vous étiez passionné très tôt par la télépathie. Est-ce que c'est vrai ?
On va dire que j'ai été baigné dans la science-fiction quand j'étais jeune, et notamment la série Star Trek. Et ça m'a toujours intéressé de savoir comment ce qu'on pouvait imaginer pouvait devenir réel.
C'est ce que vous faites tous les jours ?
Alors, on essaye, bien sûr, de tendre vers la réalisation de ces idées. C'est un travail de longue haleine, et c'est bien ça la recherche.
Est-ce que vous trouvez alors ?
Comme le disait le général de Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Donc j'essaye de rester humble.
Alors vous disiez en préambule que vous travaillez sur les petites puces qu'on retrouve dans nos appareils électroniques, numériques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Effectivement, je travaille sur le lien radio, c'est-à-dire sans fil. La puce qui va réaliser les ondes qui vont permettre de connecter nos objets. Et on peut comparer ça à de l'orfèvrerie, puisque c'est extrêmement précis et ça mobilise beaucoup de compétences scientifiques.
On peut parler d'électronicien ou alors c'est un terme qui n'existe pas ?
C'est bien l'électronique, même si c'est un mot, je dirais, un peu galvaudé de nos jours. On a le souvenir de nos grands-parents qui faisaient de l'électronique avec une paillasse et plein de grands composants. Maintenant, on est à l'échelle du nanomètre. On vient travailler avec des transistors qui est la plus grande invention du XXe siècle.
On parle souvent de nanotechnologie.
Eh bien, c'est exactement ça, puisque le transistor maintenant est arrivé à l'échelle nanométrique. Et on peut comparer ça à la taille d'un atome. Alors, un atome, c'est 0,1 nanomètre, mais un transistor maintenant fait 2 nanomètres, donc à la taille de 20 atomes.
On parlait de science-fiction tout à l'heure. La nanotechnologie, on imagine un peu Minority Report avec des puces qui sont intégrées dans le cerveau directement, etc. C'est l'avenir, on s'en rapproche, ça existe déjà.
Bien oui, on progresse dans cette voie-là, sachant que justement l'intégration de petits transistors permet de multiplier, décupler la puissance de calcul et donc rendre possible ce qu'on imaginait encore il y a quelques dizaines d'années.
Quelle est votre relation, vous, avec l'éthique du chercheur ?
Bien sûr, on peut avoir peur de ce qu'on essaye de fabriquer et quel en sera l'usage. Le chercheur ne maîtrise pas tout, mais j'aime à dire que si nous on ne le fait pas, d'autres vont le faire. Alors, le mot souveraineté est souvent repris actuellement dans la recherche, surtout en microélectronique, en nanoélectronique, et c'est pour ça que la France et l'Europe investissent énormément pour avoir le contrôle de la technologie qu'ils développent et a fortiori les usages du citoyen européen.
Que pensez-vous de l'essor actuel de l'intelligence artificielle ?
On disait il y a 10-15 ans qu'en 2040, on arriverait à cette singularité, c'est-à-dire où le circuit électronique deviendrait conscient de lui-même et pourrait surpasser l'humanité. Malheureusement, je dirais 2040, c'était une date bien lointaine. On n'a pas vu à quel point cela pourrait arriver beaucoup plus vite. Et on parle maintenant de 2030. Donc, on a été de très bons chercheurs, puisqu'on va donner réalité à cette intelligence artificielle, non pas générative, je ne parle pas de ChatGPT, mais vraiment du circuit autonome qui peut penser par lui-même et, je pense, être créatif.
À quoi ressemble une journée type de François Rivet ?
François Rivet se lève tôt le matin, même très tôt, puisque le métier de chercheur déjà n'a pas d'heure, on n'a pas de congé. Pour le coup, notre création, elle est permanente. Et quand on est passionné, on n'attend pas le début de la journée de travail. Une journée type, ça commence bien évidemment par regarder ce qui s'est passé pendant la nuit, les mails qui arrivent, mais surtout le contact avec l'équipe de recherche qui est constituée de collègues, enseignants-chercheurs, de doctorants qui sont la force vive pour réaliser les idées et bien sûr l'enseignement pour former amener la future génération d'ingénieurs et de chercheurs.
C'est quoi l'ambiance d'un laboratoire ?
La convivialité. Je pense que la proximité entre les membres d'une équipe de recherche font naître les idées, les bonnes comme les mauvaises. C'est cette émulation qui permet de faire progresser la recherche. La recherche en électronique a beaucoup évolué en 10 ans. Je dirais qu'on était centré sur le transistor, qui était le matériau de base il y a encore quelques années. Mais maintenant, on voit vraiment l'émergence d'une trans ou interdisciplinarité. Le mot intelligence artificielle, bien qu'il soit facile d'usage, est un mot qui fait appel à plusieurs disciplines. On parle bien sûr d'informatique, d'algorithmie, dans les communications, je dirais de traitement du signal et même les usages. Tout ça est pris en compte. On parle de vision holistique. Quand on fait de la recherche, on intègre toutes ces disciplines pour concevoir l'objet. Donc, ça n'est plus de l'électronique, mais je dirais que c'est l'ensemble de ces disciplines qui forment la recherche en électronique actuellement.
Vous êtes venu avec un badge, avec un petit pins sur la veste. Qu'est-ce qui est écrit sur tous ces badges que vous avez là sur votre veste ?
Alors ce badge, c'est le badge de I3E. I3E, c'est l'Association internationale des ingénieurs en électronique. Nous sommes 400 000 dans le monde. C'est la plus grande association scientifique, une société savante, qui structure, qui régule toute la recherche et aussi l'industrialisation des produits électroniques. C'est notre communauté scientifique. C'est grâce à elle que l'on standardise nos produits du quotidien. Quand vous avez un téléphone 5G, c'est qu'il a été imaginé et décidé par des représentants du monde entier pour que chacun communique de la même façon, mais aussi et surtout pour que les chercheurs se retrouvent, échangent lors de conférences, dans des publications scientifiques, pour faire progresser l'humanité.
Pour finir, la thématique de la Nuit des chercheurs, c'était nos futurs cette année. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
La rencontre du public qui était venu à Cap Science a été vraiment très intéressante car pleine de questions. Ils s'interrogeaient déjà sur l'usage de la technologie et qu'est-ce qu'était la technologie, puisque ce petit transistor, on ne le voit pas. Et ce qu'on ne voit pas, ça fait peur. Ils s'inquiétaient aussi de comment le chercheur qui est financé par les deniers publics s'emparait de cette recherche pour l'usage du citoyen. Donc, je dirais qu'il y avait vraiment un enthousiasme, une curiosité du citoyen pour savoir ce que la technologie de demain serait faite, mais aussi pour répondre à ses inquiétudes de vers quoi on allait tendre, quelle était la future technologie que le citoyen pourrait avoir en main.
François Rivet, merci beaucoup.
Merci.